Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tout le monde a déjà entendu parler de la cryogénisation, cette congélation du corps humain encore vivant dans l'espoir qu'une technologie future puisse les ressusciter. Souvent vue comme risible, sans véritable appui scientifique, elle tend à décrédibiliser dans l'imaginaire collectif le rapport pourtant poreux entre le froid et la vie. Car si on s'écarte de la pseudo-science et qu'on s'intéresse à la recherche en biologie, on sait depuis au moins le XVIIe siècle que le froid permet effectivement d'interroger les limites de la vie et de la mort. Le froid extrême permet par exemple la lyophilisation, notamment celle du sang qui a sauvé des centaines de milliers de soldats sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Il permet aussi de conserver des organes sans les abîmer, ouvrant la porte à la réalisation de greffes et de transplantations qui paraissent encore chimériques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce numéro du « Progrès et la vie », le professeur Louis Ray reçoit dans son laboratoire Paul Sarès et Jean Rostand pour une conversation passionnante autour du rôle du froid dans le progrès médical et scientifique. Une émission diffusée pour la première fois le 27 septembre 1961 sur Paris Inter.
Pour tous ceux qu'intéresse le prodigieux développement scientifique actuel, dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence, voici, réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, « Le progrès et la vie ». Le froid et les limites de la vie, tel est le sujet de notre première rubrique. Ce soir, M. Jean Rostand accompagnera Paul Sarès dans un important laboratoire consacré aux applications biologiques du froid. C'est M. Louis Ray, docteur ès sciences, directeur de ce laboratoire qui accueillera le célèbre biologiste et qui lui fera visiter les remarquables installations dont il dispose.
Nous sommes dans un laboratoire de recherche qui a été créé depuis quelques mois. Vous entendez en ce moment les pompes à vide qui fonctionnent à l'intérieur de deux armoires frigorifiques. Armoires d'une conception absolument nouvelle et que votre laboratoire est seul à posséder, je crois.
Oui, vous voyez ici deux machines qui sont assez importantes et qui sont des machines à lyophiliser.
Pourriez-vous nous préciser la signification de ce terme un peu barbare?
Oui, ce terme est un peu barbare. La lyophilisation est une opération qui a pour but de permettre la conservation par le froid de substances éminemment altérables, et en particulier les substances biologiques, par une double opération de congélation suivie de dessiccation sous vide. C'est précisément cette opération qui se passe dans nos appareils.
Pourriez-vous nous donner quelques précisions techniques sur le mécanisme de ces appareils, car ces armoires sont très importantes. Elles possèdent un nombre considérable de boutons, de compteurs, et malheureusement, on ne peut pas les voir. Alors, en quelques mots, vous pourriez peut-être nous dire ce que vous faites dans ces armoires.
Écoutez, ces machines que vous pouvez voir sont entièrement automatiques. C'est ce qui explique le grand nombre de contrôles et de boutons que vous pouvez voir à la surface des tableaux. Elles sont reliées d'ailleurs à une salle de contrôle que nous pourrons aller voir, et où je crois il sera plus facile de discuter qu'ici, puisque vous voyez bien que les machines font pas mal de bruit et d'autre part, il m'est impossible de les arrêter. Nous sommes en pleine expérimentation.
Eh bien, nous allons aller dans la salle de contrôle.
Ce qu'on pourrait peut-être dire avant de passer dans la salle de contrôle, puisque j'ai eu le plaisir de visiter tout à l'heure ce laboratoire, ce magnifique laboratoire avec M. Ray, c'est que ces appareils ne serviront pas seulement à dessécher et à congeler des produits, mais aussi à faire des recherches très importantes sur les limites de la conservation de la vie. Car jusqu'à présent, on n'a pas réussi à conserver de la vie à l'état sec, mais des recherches très importantes sur lesquelles M. Ray nous donnera tout à l'heure des lumières sont en voie d'exécution, qui permettent de penser qu'on pourra peut-être un jour conserver à l'état sec des tissus, des cellules vivantes, c'est-à-dire de réaliser ce qu'on pourrait appeler la vie en poudre. Et voilà, je vous avoue, ce qui m'intéresse le plus dans ce laboratoire.
Eh bien, avant de réaliser ce rêve, nous allons voir dans la seconde salle comment les contrôles s'effectuent. Nous voici maintenant dans la salle des contrôles. Et tout d'abord, une première question. Pourquoi avez-vous placé cette salle assez loin des premières installations que nous venons de voir?
Pour plusieurs raisons. Parce que les machines que vous venez de voir sont des machines d'abord assez encombrantes, qui font beaucoup de bruit et qui, d'autre part, contiennent des quantités d'organes électriques et qui, de ce fait, perturbent une partie des mesures que nous pouvons faire dans leur environnement direct. C'est pour cela que nous avons préféré installer les appareils à distance. Et puis, deuxièmement, les appareils que vous voyez rassemblés autour de vous représentent une très grande valeur à la fois scientifique et aussi matérielle. Ils sont très fragiles, ne peuvent pas être transportés, et il vaut mieux amener jusqu'à ces appareils les informations que l'on veut mesurer plutôt que de rassembler ces appareils coûteux autour de la machine elle-même.
Et les premières mesures que vous effectuez ici sont forcément des mesures de température. Quelle est la moyenne température que vous utilisez dans ces armoires?
Eh bien, écoutez, vous avez ici un enregistreur de température qui indique précisément la température du produit, et je vais demander à la personne qui s'en occupe un petit peu où l'on en est.
Bien, la température est à moins 42. Nous sommes en fin de dessiccation.
Et vous allez conserver cette température pendant une durée assez longue?
Eh bien, en principe, la durée de dessiccation est de l'ordre de 6 à 8 heures. Nous sommes ici en fin d'opération. On peut donc penser que l'on aura bientôt rejoint la température ambiante, c'est-à-dire de plus 20 degrés dans une heure ou deux.
Mais vous allez à des températures beaucoup plus basses. Vous êtes en fin de dessiccation, mais vous atteignez des températures plus basses au cours de la dessiccation.
Ah oui, comme le fait remarquer le maître Jean Rostand, le début même de l'opération est une congélation à très basse température, qui peut se faire même éventuellement à l'aide d'azote liquide. Vous voyez d'ailleurs dans l'angle du laboratoire là-bas une bouteille de forme un peu bizarre qui contient précisément de l'azote liquide, qui est un liquide qui bout à près de moins de 100 degrés, par conséquent une température excessivement basse.
Et à part ces mesures de température, vous nous avez parlé de contrôle sur l'électricité. C'est ce tube cathodique, je crois, qui vous permet d'effectuer ces contrôles.
C'est ça. En ce moment, je suis en train de suivre les propriétés diélectriques des corps en cours de lyophilisation.
Et ces propriétés varient au cours de cette opération?
Elles varient de manière assez difficilement reproductible suivant les produits, mais en tout cas, pour chaque produit particulier, il y a une courbe témoin que nous pouvons tracer. Et c'est en fonction de cette courbe témoin que, justement, nous pouvons régler les dispositifs automatiques des appareillages.
Eh bien, nous avons examiné les moyens pour traiter les produits différents que vous mettez dans ces machines. Pourriez-vous dire maintenant les buts de ces opérations différentes?
Eh bien, le but de ces opérations, c'est comme le faisait remarquer tout à l'heure le maître Jean Rostand, c'est précisément d'arriver à stabiliser des systèmes qui sont en évolution constante. La matière vivante ou les produits qui en dérivent contient des quantités énormes d'eau, vous le savez, et c'est cette eau qui est responsable de son évolution constante. Si l'on désire conserver des tissus, bloquer et arrêter toute évolution, il est bien nécessaire d'extraire cette eau. Et nous l'extrayons précisément par une double opération de congélation, puis de dessiccation à partir de l'état congelé. C'est-à-dire que nous déshydratons complètement nos spécimens sans les altérer.
Vous avez bien entendu ces mots de blocage, d'arrêter. Le but, en effet, de ces recherches est d'arriver à suspendre la vie, à réaliser cet état de suspension de la vie dont on parle depuis très longtemps, puisque déjà Spallanzani en parlait, mais enfin dont on n'avait jamais démontré l'existence. Il semble que maintenant on puisse dire que la science est en mesure de suspendre la vie par certains moyens physico-chimiques.
Pourriez-vous nous préciser maintenant quels sont les principaux produits que vous traitez ainsi ou que vous vous apprêtez à traiter bientôt?
Eh bien, les produits que l'on peut traiter par la technique de lyophilisation sont très nombreux. À vrai dire, historiquement, les premiers qui ont été traités en grande quantité sont les produits d'origine sanguine. C'est le plasma qui a été utilisé avec grand succès, vous le savez, au cours du dernier conflit mondial sur les champs de bataille. C'est donc principalement des produits qui ne sont pas vivants, mais qui dérivent directement d'un organisme vivant. Et ainsi, vous pouvez voir, dans une série d'ampoules qui sont rassemblées ici, diverses substances qui sont conservées par la technique de lyophilisation. Ce peut être des hormones, ou encore des extraits tissulaires, ou bien même des systèmes enzymatiques, c'est-à-dire ces espèces de systèmes chimiques qui provoquent constamment l'évolution de la matière vivante et qui tous s'altéreraient à la température ambiante. Au contraire, conservés à l'état froid, d'abord par simple congélation, ou à l'état desséché par lyophilisation, donc congélation et dessiccation, ils peuvent être stockés indéfiniment. Mais nous pouvons aussi conserver des tissus, c'est-à-dire un matériel biologique dans lequel non seulement une activité est à garder, mais une structure. Ainsi, par exemple, un vaisseau sanguin, un os ou un fragment oculaire.
Ou même de la peau, je crois.
La peau peut également être conservée par lyophilisation, et si vous voulez, je vais pouvoir vous en montrer.
Mais on peut également conserver par lyophilisation des bactéries, en tout cas. De toute façon, je crois que les cellules bactériennes peuvent être conservées par lyophilisation.
Absolument. Les bactéries et certains êtres unicellulaires, des protozoaires simples en particulier, peuvent être conservés par lyophilisation. D'ailleurs, les expériences de Becquerel avaient montré il y a déjà de nombreuses années que l'on pouvait les congeler. Donc, ces organismes supportent la première phase de la lyophilisation, la congélation, sans dommage. D'autre part, il est bien connu que les poussières de l'été, aussi bien que les ornières des chemins et que la plupart des objets courants sont recouverts de ce que l'on appelle communément des microbes, qui ne sont autres que des corps bactériens, et qu'ils sont là à l'état desséché. Donc, les bactéries supportent la deuxième étape de la lyophilisation, c'est-à-dire la dessiccation. Supportant les deux, il n'est pas étonnant qu'elles puissent être conservées par la technique de lyophilisation. Pour revenir au sujet qui nous intéressait primitivement, c'est-à-dire celui de la conservation des tissus, je vous ai dit que l'on pouvait conserver par lyophilisation un certain nombre de tissus, et même de tissus d'origine humaine. Dans les bocaux que vous voyez ici, il y a précisément un certain nombre de ces tissus qui ont été lyophilisés. Vous pouvez voir ainsi des petites boules blanchâtres qui sont des cornées transparentes qui, après avoir été réhydratées convenablement, pourront servir à faire des greffes humaines et réparer, par exemple, une cornée qui aura été atteinte par une projection d'acide ou par une brûlure superficielle.
Et dans ce bocal que je vois là à côté, ce sont des veines, des artères?
Oui, il y a même aussi de la peau, voyez-vous, et la peau, c'est peut-être l'un des cas les plus curieux, parce que la peau lyophilisée, qui se présente, comme vous le voyez, sous l'aspect d'une membrane blanchâtre, d'apparence rigide, et qui a un peu un toucher satiné comme un carton bien fin, cette membrane peut être réhydratée et retrouver toute sa souplesse d'origine. Néanmoins, elle est morte. La technique de lyophilisation, dans ce cas particulier, l'ayant non pas dénaturée quant à sa structure, mais lui ayant fait perdre son caractère vital, ce qui est quand même important. Elle est toutefois utilisable puisqu'elle peut permettre de faire des pansements biologiques, pourrait-on dire, et de traiter ainsi des brûlures étendues. Mais l'on a l'espoir de pouvoir un jour conserver de la peau vivante par lyophilisation, ou du moins par congélation. Et là, il se pose d'autres problèmes qui sont très intéressants, qui sont des problèmes d'ordre immunologique, et si vous le voulez bien, dans le laboratoire d'immunologie, ou plutôt dans ici le service qui s'occupe de l'immunologie, nous pourrons voir ceci un peu plus en détail.
Eh bien, allons-y.
Nous voici donc arrivés maintenant dans le laboratoire d'immunologie, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous essayons d'établir les critères et les caractéristiques antigéniques des tissus que nous traitons. Ces caractéristiques antigéniques, c'est en quelque sorte un peu leur carte d'identité, c'est-à-dire les caractères spécifiques que peut avoir un tissu, et qui nous permettent d'évaluer et de connaître exactement son comportement vis-à-vis d'un organisme étranger.
Et vous vous êtes aperçu que le froid pouvait modifier ses caractères et pouvait donc permettre d'espérer de réaliser bientôt des greffes grâce à cette nouvelle technique.
En effet, et nous y reviendrons dans un instant, mais ce que vous venez de dire implique par là même que l'on puisse arriver à conserver vivants des tissus par la technique de lyophilisation. Et ceci a été réalisé dans quelques cas très particuliers seulement.
Oui, c'est Merriman, je crois, n'est-ce pas, qui le premier a fait cela. Ou du moins, je ne sais pas si l'expérience a été répétée, mais il y a quelques mois, nous avons eu tous un grand espoir quand nous avons su que Merriman avait desséché, sans compromettre leur vitalité, des cellules sanguines et même des spermatozoïdes. Il avait même obtenu des inséminations artificielles avec ces spermatozoïdes complètement desséchés. Il avait donc réalisé ce que j'appelais tout à l'heure la vie en poudre. Or, je crois qu'actuellement, on a eu des résultats un peu moins favorables. Et vous, tout à l'heure, dans notre conversation, vous m'avez paru très informé de l'état actuel de la question. Pourriez-vous nous en parler un peu ?
Justement, Merriman avait réussi à faire une expérience qui, ainsi que vous venez de le souligner, avait une très grande portée au point de vue scientifique. Merriman, que je connais bien et que j'ai vu récemment aux États-Unis, m'a dit qu'il avait réessayé de nombreuses fois cette expérience et sans succès. Il s'agit là d'un cas très particulier puisque, au fond, avec le même appareillage, le même matériel de départ, un chercheur dont la probité intellectuelle et scientifique est évidemment parfaite, a refait exactement des expériences qui avaient été positives au début et maintenant s'avère incapable de les reproduire. Et c'est peut-être là, justement, une aventure un peu particulière.
Particulière, mais je pense qu'au point de vue de la philosophie scientifique, n'est-ce pas, je crois que là, il n'y a qu'un cas extrêmement intéressant. Il y a d'autres cas analogues. Le cas, par exemple, de Pincus, qui a obtenu en 1939 les premiers lapins sans père. Son expérience n'a jamais pu être refaite, encore que nous soyons assurés également de la probité intellectuelle de ce savant. Et je ne ferai pas allusion à l'expérience de Benoît et des Vendreliers sur les canards, mais c'est un peu du même ordre, n'est-ce pas, il y a des expériences scientifiques qu'on ne peut pas refaire, ce qui n'implique pas qu'elles soient fausses. Simplement, il y a eu un facteur, sans doute, qu'on ne peut pas retrouver. N'est-ce pas ?
Mais quels sont les moyens que vous espérez utiliser pour réussir à conserver la vie sous cette forme de poussière ?
Eh bien, nous vous l'avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous espérons employer la lyophilisation, ou du moins la congélation. Vous savez en effet que les cellules des tissus supérieurs, et surtout des animaux supérieurs, de la série donc des mammifères, peuvent être conservées par congélation. Ceci semblait encore impensable, un rêve absolument irréalisable il y a quelques années. Or, les travaux du maître Jean Rostand ont montré que par addition de protecteurs chimiques choisis, comme la glycérine, on pouvait précisément les congeler et les conserver à basse température. À ce moment-là, un immense espoir est né pour les banques de tissus vivants. On avait enfin une méthode de bloquer la vie dans des tissus très nobles et de pouvoir les avoir en attente, en valeur de portefeuille, disponibles à tout moment pour qu'un chirurgien qui puisse en avoir besoin en dispose au moment voulu. Eh bien, là, on se heurte à un deuxième problème, et un problème qui est, cette fois, directement lié, on peut dire, à la biologie même de l'hôte. En effet, le tissu est disponible, il peut être greffé mécaniquement, mais il est repoussé par l'hôte. C'est tout à l'heure ce que j'ai appelé le caractère antigénique. En quelque sorte, l'identité du tissu greffé et l'identité du receveur ne sont pas compatibles. Et le tissu qui reçoit, plutôt l'hôte qui reçoit un tissu étranger, ne le tolère pas pendant longtemps. C'est précisément cette modification du caractère antigénique que nous cherchons à obtenir par le froid. Et pour ceci, nous sommes obligés tout d'abord, justement, d'établir cette carte d'identité, c'est-à-dire de connaître notre tissu exactement pour savoir dans quelle mesure nous pouvons le modifier. Et mon collaborateur, M. Fornex, est justement une méthode qu'il emploie pour connaître cette identité des tissus que l'on va greffer.
Dans ce laboratoire, nous essayons d'étudier la structure antigénique du composé biologique. Cette structure est étudiée par une technique française qui permet de différencier les antigènes constituant ce mélange.
Autrement dit, vous prenez les empreintes digitales des cellules que vous voulez étudier. Et qu'est-ce qui se passe exactement sur ces lames ? Nous avons ici des lames qui représentent, si on veut, un spectre magnétique, enfin si on veut, c'est une interprétation tout ce qu'il y a de plus hardi sans doute, bleuté, c'est assez joli, et je vois que ces lames sont toutes différentes, donc c'est en quelque sorte les caractéristiques qui sont ainsi matérialisées.
C'est en quelque sorte la carte d'identité de la substance que l'on veut étudier. Vous apercevez des arcs de précipitation qui ont été colorés. Chaque arc de précipitation correspond à une substance pure du complexe antigénique. Nous avons fait réagir l'anticorps correspondant à l'antigène que l'on veut étudier.
Et qu'espérez-vous réaliser grâce à ces cartes d'identité multiples ? Vous espérez modifier les caractéristiques des tissus que vous traitez ainsi pour faciliter les greffes. Avez-vous déjà obtenu des résultats encourageants dans ce domaine ?
Nous avons obtenu des résultats encourageants justement dans le domaine des greffes de peau, montrant que des tissus qui avaient été congelés au préalable, tout en étant conservés vivants par protection à la glycérine, suivant la technique de Jean Rostand précisément, restaient beaucoup plus longtemps en place sur l'hôte. Ce qui semble bien prouver qu'il y a eu une modification du caractère antigénique. Et dans les travaux que nous menons ici au laboratoire avec mes collaborateurs, M. Fornex et M. Demarthe, nous essayons de montrer par des moyens absolument irréfutables, c'est-à-dire par cette technique immunologique qui vient de vous être décrite, comment ce caractère antigénique est modifié. Autrement dit, nous prenons des tissus bien caractérisés par leur carte d'identité, si vous voulez, et nous les traitons au froid, par des techniques différentes. Puis ensuite, nous les examinons de nouveau et nous les comparons à l'image d'origine. Et de la sorte, nous essayons de voir si la technique de congélation utilisée, tout en conservant le caractère vital, n'a pas altéré d'une manière très fine, presque imperceptible, mais suffisante, le caractère antigénique qui précisément était responsable du rejet du tissu par l'hôte.
Je voudrais simplement souligner l'intérêt considérable de ces recherches au point de vue des transplantations d'organes humains. Si jamais ce genre de recherche aboutissait à un résultat positif, on peut envisager la constitution de banques d'organes et la possibilité de greffer, pour ainsi dire, n'importe quel organe, n'importe quel tissu, à n'importe quel individu. Le problème de la sénilité, le problème de beaucoup de maladies se trouverait par conséquent résolu, puisqu'on pourrait remplacer des tissus ou des organes altérés par des organes prélevés sur des individus
individu mort en pleine santé, si l'on peut dire, mort accidentellement, n'est-ce pas ? Ce serait donc considérable comme conséquence. De plus en plus nombreux deviendraient ces hommes chimères, ces hommes mosaïques, comme on les a appelés, et qui sont maintenant très rares. Il en existe quelques-uns, mais ce ne sont que l'exception. À ce moment-là, les hommes chimères, les hommes mosaïques, c'est-à-dire des hommes qui auraient des organes ne leur appartenant pas, des organes ayant une autre constitution génétique, seraient courraient les rues, pour ainsi dire. Cela pose d'ailleurs des problèmes considérables quant au maintien de l'individualité. Est-ce que ces individus seraient encore exactement eux-mêmes en portant un organe d'autrui ? Enfin, cela nous entraînerait trop loin.
Et puisque nous en sommes dans le domaine de l'imagination, dans le domaine du futur, faisons encore un bond en avant, ne peut-on imaginer que grâce au froid, l'homme pourra vivre plus longtemps, pourra supporter des chocs violents, pourra résister enfin à toutes les maladies et qu'ainsi l'homme pourra vivre plusieurs siècles ?
Oui, bien sûr, on pourrait dire cela, vous comprenez, mais je crois qu'il serait un petit peu dangereux, ou du moins prématuré, de s'aventurer trop loin sur cette voie. Souvent, le spécialiste a tendance à croire que les phénomènes qu'il étudie ont une portée universelle. Le froid a une portée certaine, mais elle est quand même limitée. Pour le moment, on peut estimer que le froid sert déjà à prolonger la vie dans des cas très graves, puisqu'il a été montré que par la technique d'hypothermie, développé sur le plan scientifique et expérimental par la grande école serbe de Jaya Andjus, qui ont travaillé d'une manière si parfaite dans ce domaine, et sur le plan médical par les équipes françaises de Laborie, Huguenard, Dubost, il est bien certain que ce froid, cette hypothermie profonde, permet dans certains cas de pallier une déficience grave de l'organisme, dans un cas d'intoxication, dans un cas de chirurgie importante, soit des centres nerveux supérieurs, soit de la région cardiaque. Dire que le froid en lui-même pourrait permettre à l'organisme de survivre plus longtemps, de dépasser sa durée normale de vie, eh bien, c'est encore un petit peu du rêve. Mais malgré tout, les expériences de Jaya ont montré que le sang des animaux hypothermiques contenait certaines substances, qu'il avait appelées d'ailleurs les frigostimulines, qui en quelque sorte étaient des substances, non pas de réjuvénation, mais en tout cas des substances stimulatrices de l'organisme, qui permettaient par là même à un organisme fatigué de surmonter une fatigue temporaire. Et de même, comme le faisait remarquer le maître Jean Rostand, le cœur des animaux qui ont été refroidis bat plus vigoureusement après la période de refroidissement. Donc en quelque sorte, ce refroidissement temporaire n'est peut-être pas une cure de force pour l'organisme, mais du moins une période pendant laquelle il se développe dans l'organisme diverses substances qui aident ensuite à une meilleure reprise des fonctions physiologiques.
Eh bien, merci infiniment, messieurs.
Après cette visite dans un grand laboratoire parisien en compagnie de M. Jean Rostand et de M. Louis Ray, voici « Faisons le point ». Le docteur délégué du comité des sciences commente l'actualité médicale.
Les examens endoscopiques ont déjà donné des résultats spectaculaires. Mais dans l'examen du tube digestif, on était limité par le fait que l'appareil qu'on utilisait était rigide et qu'on ne pouvait donc examiner toutes les parties du tube digestif. Or, des Anglais avaient mis au point un fiberscope qui permettrait, en utilisant un appareil flexible, d'examiner même le duodénum. Est-ce exact, docteur ?
C'est exact. C'est très exact et cette information est réellement très intéressante pour les gastro-entérologues. Puisque, comme vous le rappeliez à l'instant, la vue endoscopique, c'est-à-dire la vue directe des lésions, de la muqueuse, avec un tube et des miroirs, était jusqu'à présent limitée à l'estomac et il était impossible d'aller plus loin en raison des sinuosités de l'appareil du tube digestif après l'estomac. Or, le tube rigide ne pouvait donc dépasser ce cap, ne pouvait dépasser ce territoire. Or, l'appareil mis au point par les ingénieurs et les médecins anglais est un appareil flexible, un appareil qui peut donc décrire les sinuosités du tube digestif et qui permet donc de pousser l'investigation directe plus loin qu'elle ne pouvait être réalisée jusqu'à ce jour. Et c'est ainsi qu'avec cet appareil sur lequel les images se transmettent par réflexion sur les parois, depuis l'extrémité introduite dans le tube digestif jusqu'à l'œil de l'observateur, avec même possibilité de faire des photographies des lésions ainsi constatées, on peut pousser le tube et voir des lésions jusque dans le duodénum, voire même jusque dans la partie supérieure de l'intestin grêle, qu'on appelle le jéjunum. Vous voyez quelle révolution cette technique nouvelle apporte dans le domaine de l'examen des lésions de l'appareil digestif. Puisque nous en sommes dans le domaine des techniques nouvelles, d'investigation biologique dans le domaine médical, je vais vous parler de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas eu mention dans la littérature récente et qui consiste à mettre en évidence des moyens de défense de l'organisme contre certains virus. Le principe est très simple. Il suffit de faire une prise de sang au malade, prise de sang dans lequel vous voulez étudier les anticorps contre un virus donné, c'est-à-dire les moyens que cet organisme a de se défendre contre ce virus. Le sang, le sérum plus exactement du malade, est donc mis dans un petit récipient et on trempe dans ce récipient un ruban de papier filtre gradué qui imprègne ce sérum et on retire ce ruban de papier gradué. Et on plonge ensuite le ruban de papier ainsi imprégné du sérum à étudier dans un liquide contenant un virus qui a été rendu radioactif par du phosphore radioactif et qu'on peut donc mesurer, dont on peut détecter la présence par des compteurs de radioactivité comme les compteurs de GGR. Or, le virus va grimper en quelque sorte avec le liquide qu'il contient le long du papier et va être arrêté à un niveau plus ou moins haut sur ce ruban de papier en fonction de la présence en quantité plus ou moins importante des anticorps. Il y a donc ici une sorte de méthode d'examen tout à fait simple et tout à fait élémentaire, et suivant la hauteur du ruban de papier rendu radioactif par le virus, on peut dire s'il y a présence ou non d'une quantité importante d'anticorps.
Eh bien, cette technique est en effet révolutionnaire et elle me paraît extrêmement facile et extrêmement intéressante pour l'avenir. Mais il serait également intéressant de pouvoir faire des diagnostics précoces du cancer. Et il existerait également un moyen de détecter directement dans le sang des cellules qui montreraient qu'un individu est ou non atteint d'un cancer.
Oui, on parle beaucoup depuis quelques années de techniques qui consistent à mettre en évidence un cancer par la découverte de cellules cancéreuses dans le sang circulant. Alors qu'autrefois, on pensait que c'était un stade très tardif, au stade dit des métastases, que les cellules cancéreuses apparaissaient dans le sang d'un malade. On sait maintenant, depuis peu, par des investigations nombreuses, que ces cellules cancéreuses circulent très précocement dans le sang et qu'elles sont donc presque un moyen de détection et un moyen de diagnostic de cette maladie. Or, il est évident que pour mettre une cellule cancéreuse en évidence dans le sang d'un malade, il faut en quelque sorte faire abstraction de toutes les autres cellules qui sont en circulation, c'est-à-dire les globules rouges, c'est-à-dire les globules blancs, qui masquent en quelque sorte par leur volume et par leur très grand nombre les cellules cancéreuses. Or, nous possédons des moyens relativement simples pour éliminer les globules rouges. Ça consiste à les faire éclater en ajoutant de la saponine ou en ajoutant au sang à étudier une toxine issue de microbes tels que le streptocoque. Mais pour les globules blancs, nous ne disposions pas jusqu'à cette époque récente de moyens réellement satisfaisants. Et la technique dont je veux vous parler est particulièrement intéressante et elle comble une lacune qui existait jusqu'à ce jour. Elle consiste à utiliser la propriété qu'ont les globules blancs, en particulier les polynucléaires, d'absorber un peu tous les corps étrangers qu'ils rencontrent sur leur route. Et ici, les particules étrangères sont constituées par ces fragments de fer infiniment petits et qui vont être donc absorbés par les globules blancs. Et aussitôt après l'absorption par les globules blancs, il suffit de plonger un aimant dans le sang et les polynucléaires qui ont absorbé le fer vont venir se fixer sur cet aimant et ils seront ainsi éliminés et l'examen du sang et la recherche des globules cancéreuses deviendront particulièrement faciles.
Merci beaucoup, docteur, et à bientôt.
Au revoir, monsieur.
Nous nous ferons un plaisir de répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser sur tout sujet scientifique d'actualité. Écrivez à la Radiodiffusion Télévision Française, émission Le Progrès et la Vie, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. C'était, réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarès, Le Progrès et la Vie.
C'était une émission de Paul Sarès avec Jean Roustan et Louis Ray, diffusée pour la première fois le 27 septembre 1961 sur Paris Inter.